Il est fort possible que vous ayez déjà vu le film, le grand classique « La vie est belle ». Pas celui de Roberto Benigni, mais celui de Frank Capra, tourné en 1941 avec Jimmy Stewart et Donna Reed. C'est un très beau film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. C'est assez facile en streaming de pouvoir le visionner. Dans ce film, le personnage principal s'appelle George Bailey. Il est joué par Jimmy Stewart et il arrive à la veille de Noël à un tel désespoir qu'il envisage de mettre fin à ses jours. Et dans son désespoir, voilà ce qu'il dit. « J'aimerais ne jamais être né. J'aimerais ne jamais être né. » Et alors qu'il s'apprête à commettre l'irréparable, un homme qui, en réalité, dans le film, est un ange, l'ange Clarence, lui propose de voir ce que le monde aurait été s'il n'était pas né. Ou dit autrement, de voir les conséquences sur les vies de ses proches s'il n'était pas né et s'il n'avait donc pas fait tout ce qu'il a fait pendant sa vie. Ces quelques mots d'explication très succincts sur le film « La vie est belle » introduisent à merveille la question que j'aimerais poser et développer ce matin. Et si Jésus n'était pas venu, est-ce que cela changerait quelque chose? Qu'est-ce que cela changerait? Que serait notre monde si Jésus n'était pas venu? Que serions-nous si Jésus n'était pas venu? Bien sûr, il est impossible de savoir dans le détail ce que serait notre monde si Jésus n'était pas venu. Par contre, comme nous savons ce que sa venue nous a apporté, nous pouvons, dans les grandes lignes, répondre à notre question. Et si Jésus n'était pas venu? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. C'est en tout cas la réflexion que je vous propose maintenant pour le message de ce culte de Noël. Et si Jésus n'était pas venu? Et je répondrai à cette question par trois réponses. Et la première s'intitule tout simplement « Nous ne fêterions pas Noël ». C'est notre deuxième point dans le plan après l'introduction. Alors c'est une évidence, bien évidemment, c'est une évidence, mais qu'il faut quand même poser. Si Jésus n'était pas venu, nous ne fêterions pas Noël. Nous ne nous offririons pas des cadeaux à cette époque de l'année. Nous ne réveillonnerions pas. Nous ne ferions pas de fête de famille, etc. Nous fêterions peut-être, à cette époque, le solstice d'hiver, mais certainement pas la fête de Noël. Alors, bien sûr, la très grande majorité de nos contemporains fête déjà Noël sans Jésus. C'est un phénomène qui s'est d'ailleurs largement amplifié ces dernières décennies. Mais quoi qu'il en soit, la fête de Noël, qui à l'origine, s'est greffée sur celle du solstice d'hiver, est au départ, bien sûr, une fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Une fête chrétienne qui n'existerait pas si Jésus n'était pas né. Et donc, même ceux qui fêtent Noël aujourd'hui sans Jésus ne le fêteraient pas. C'est QFD. C.S. Lewis, dans le premier tome des Chroniques de Narnia, fait dire à la petite Lucie, qui décrit la sorcière blanche de l'histoire, elle dit à ses frères et sœurs, elle, en parlant de la sorcière blanche, a jeté un sort sur tout le pays, de telle manière que c'est toujours l'hiver, mais jamais Noël. C'est toujours l'hiver, mais jamais Noël. Voilà ce que nous vivrions. en cette période de l'année, si Jésus n'était pas venu, ce serait toujours l'hiver, mais jamais Noël. Passons à notre troisième point, qui est la deuxième réponse. Notre monde serait bien différent. Et il faut commencer ici par rappeler que Noël, c'est la venue de la lumière dans notre monde de ténèbres. Et si la lumière n'était pas venue, notre monde serait encore entièrement dans les ténèbres. Bien sûr, les ténèbres n'ont pas disparu. Mais la lumière du Christ brille aujourd'hui dans les ténèbres de notre monde. Comment ? Mais par les chrétiens, qui sont la lumière du monde, a dit Jésus, qui a mis en eux sa lumière. Ainsi, la venue de Jésus, en transformant les hommes et les femmes qui l'ont accueilli, a des répercussions sur notre monde. La lumière du Christ qui brille en nous éclaire notre monde, que nous en soyons conscients ou pas. Le sel du Christ en nous agit, préserve, purifie, donne de la saveur à notre monde. Oui, l'Évangile a des conséquences qui sont autres que spirituelles. Ce qui m'amène à dire que personne n'a autant influencé et transformé le monde que Jésus, que la venue de Jésus. Bien sûr, et malheureusement, il y a aussi, historiquement parlant, de mauvaises choses qui ont été faites par des chrétiens et qui ont été faites au nom du Christ. Mais ce n'étaient jamais des choses demandées par le Christ, seulement de mauvaises compréhensions de son message ou alors une récupération de son message à des fins égoïstes. Qu'est-ce que la venue de Jésus a changé pour notre monde ? En réalité, on pourrait passer ici le reste de la journée à citer des exemples. J'en mentionnerai quelques-uns à titre d'illustration, sans pouvoir entrer dans les détails. Mais cela devrait suffire à nous rappeler, nous convaincre peut-être, du pouvoir transformateur pour notre monde de la venue de Jésus. Et le premier effet bénéfique que j'aimerais mentionner de la venue de Jésus, c'est la valorisation de la personne, de l'individu. Bien sûr, cela existait déjà dans l'Antiquité, mais pour quelques rares personnes seulement. Les autres étaient noyés dans la masse. La vie individuelle n'avait pas ou peu de valeur. Ce qui comptait, éventuellement, c'était le groupe. Ce qui comptait avant tout, c'était le roi, le chef, et très souvent au détriment de la vie de ses sujets, de la vie individuelle. Jésus a valorisé l'individu en nous faisant comprendre l'amour de Dieu pour chacun, pour chaque homme et pour chaque femme vivant sur cette terre. Chaque être humain a de la valeur, la même valeur aux yeux de Dieu. Et cela indépendamment de son rang social, de son statut, de son genre, etc. Ainsi, Jésus a donné de la valeur à celles et ceux qui n'en avaient pas, à celles et ceux qui ne comptaient pas aux yeux de la société, à celles et ceux qu'on ne voyait même pas, aux femmes, aux enfants, aux pauvres, aux malades, aux étrangers et à toutes celles et ceux qui se sont approchés de lui. Et cette abolition qui se trouve en Jésus de toutes les distinctions et de toutes les barrières mises en place par la société est admirablement résumée dans un verset de l'Épître aux Galates, c'est au chapitre 3, le verset 28, qui dit ceci : Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Quelle révolution ! Quelle transformation ! à n'en pas douter, une des plus importantes que notre monde n'ait jamais connue. Cette valorisation de l'individu va donner naissance, au fil des siècles, en particulier, à toute une myriade d'œuvres bonnes, caritatives, humanitaires qui vont répandre la lumière du Christ dans le monde, qui vont apporter le sel de sa présence et qui vont transformer petit à petit notre monde. Bien sûr, tout cela n'est que partiel et temporaire. Rien n'est et ne sera jamais parfait ici-bas. Le monde où la justice habitera est à venir avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour l'heure, il faut faire au mieux. Il faut faire au mieux au milieu d'un monde qui a rejeté la lumière et qui la rejette encore, d'un monde qui très souvent aime et préfère les ténèbres à la lumière. Ainsi, quels que soient les efforts déployés par les chrétiens et les non-chrétiens, tout ici-bas est toujours marqué par l'imperfection, jusqu'à ce que les premières choses aient disparu, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et établisse son règne de gloire. En plus des quelques exemples que je vais citer, il y aurait eu tant d'autres choses à dire dans tant d'autres domaines. Le domaine de l'art, par exemple, le domaine de la culture, le domaine de l'éducation, le domaine des sciences, de l'édition, avec la diffusion du livre et sa vulgarisation grâce à la Bible, et j'en passe. Des domaines où des chrétiens, souvent avec le désir de glorifier Dieu, ont réalisé de bonnes et belles choses qui ont profondément marqué la société dans laquelle ils vivaient, et parfois bien au-delà, comme une transformation durable. Et puis, bien sûr, il y a aussi la multitude des inconnus, ceux que l'histoire n'a pas retenus, mais qui ont marqué par leur fidélité, par leur lumière et par leur sel le monde dans lequel ils vivaient, leur entourage, et ils ont contribué à leur niveau à faire changer les choses et à ancrer en profondeur les changements qui s'opéraient par ailleurs. Quelques exemples donc. Prenons les hôpitaux. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de l'hôpital ? L'origine des hôpitaux ? Dans l'Antiquité, l'hôpital public, ça n'existait pas. L'aide et l'assistance se pratiquaient dans les maisons privées, individuelles. Et c'est avec l'arrivée du christianisme, et du christianisme d'État en particulier, qu'est apparue cette idée d'assistance qui ne serait pas juste réservée aux parents ou aux membres d'un groupe, mais d'une assistance publique, c'est-à-dire offerte à tous, amis et ennemis, familiers et étrangers. Et puis, quelques années plus tard, le code de Justinien, en 529, donc on est quand même assez proche des commencements, va établir l'hôpital comme une institution. Et puis pendant tout le Moyen-Âge, nous savons que ce sont les églises qui ont construit les hôpitaux et le clergé qui les a administrés. Et cette assistance publique qui se met en place ainsi va être fondée sur l'enseignement du Christ, l'accueil des humbles et la miséricorde envers les affligés, etc. Prenons un autre exemple. Quelle est l'origine de l'abolition de l'esclavage ? Vous le savez peut-être, il y a un très beau film qui a été fait d'ailleurs sur la vie de ce parlementaire anglais nommé William Wilberforce, qui après s'être converti va lutter pendant toute sa vie en s'appuyant sur les valeurs de l'Évangile et sur sa foi pour faire abolir l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Et il va premièrement obtenir l'abolition de la traite, c'est-à-dire du commerce des esclaves, en 1807, après 26 ans d'efforts, de bataille avec le Parlement. Il va poursuivre son combat et il obtiendra finalement l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire romain alors qu'il est sur son lit de mort. Et quand l'acte d'abolition de l'esclavage va être promulgué par le Parlement, il est donc sur son lit de mort et il mourra 3 jours après, en 1837. Et cette décision historique va petit à petit se mettre en place dans tout l'Empire. Elle fera ensuite tache d'huile et se répandra, pas toujours très vite, mais dans le reste du monde. Un troisième exemple, plus proche de nous, vous avez peut-être entendu parler de la Croix Bleue, on connaît bien la Croix Rouge, un peu moins peut-être la Croix Bleue. C'est une association fondée en 1877 par un pasteur suisse, Jean-Lucien Rochat, pour venir en aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et autres addictions, ainsi que à leur entourage. Et cette action était au départ basée sur les valeurs de l'Évangile, sur la foi chrétienne de Jean-Lucien Rochat. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'elle l'était encore aujourd'hui dans plusieurs pays, mais pas systématiquement. Il y a des endroits où ça s'est complètement laïcisé. Un dernier exemple. Vous connaissez, c'est sans doute l'exemple qu'on connaît le mieux, c'est l'origine de l'obtention des droits civils pour les Noirs aux États-Unis. Et c'est l'exemple que j'ai retenu le plus proche de nous, puisqu'il s'agit des actions menées par le pasteur baptiste noir, Martin Luther King, qui lui aussi, guidé par sa foi et par les valeurs de l'Évangile, s'est battu pour cette égalité de droits, s'est battu jusqu'à y laisser sa vie, puisqu'il a été assassiné en 1968. On pourrait continuer avec beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Deux citations pour terminer cette deuxième réponse. Notre monde serait bien différent. Une première de la plume de saint Augustin, qui écrit ceci. « L'espérance a deux filles superbes, la colère et le courage. La colère pour que ce qui ne doit pas être ne soit pas, et le courage pour que ce qui doit être soit. » C'est en effet souvent la colère et le courage, sur la base de l'Évangile, sur la base des valeurs chrétiennes, sur la base de l'espérance et de la foi, que des hommes et des femmes se sont battus pour faire changer les choses. Et la deuxième citation, un tout petit peu plus longue, elle est de Chateaubriand, dans son livre « Le génie du christianisme », un livre où il cherche à montrer l'excellence de la religion chrétienne. Et il le fait sous un aspect nouveau, la beauté poétique. Et dans son livre, Chateaubriand résume lui-même sa pensée et il dit ceci. « De toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. Le monde moderne lui doit tout, depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices, bâti pour les malheureux jusqu'au temple élevé par Michel-Ange et décoré par Raphaël. Il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte. Elle favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'artiste. Passons maintenant à notre quatrième point, qui est notre troisième et dernière réponse. Jésus ne serait ni mort ni ressuscité. Et c'est de loin la conséquence la plus importante aux répercussions dramatiques pour l'humanité. Parce qu'il n'est pas seulement ici question de confort, de notre vie ici-bas et d'amélioration des conditions de vie, etc. Mais il est question ici de vie éternelle, d'éternité. Si Jésus n'était pas venu, il ne serait ni mort ni ressuscité. Au mieux, nous attendrions encore le Messie. Je dis « nous », en étant conscient que nous ne l'aurions pas attendu, puisque nous aurions été des païens sans aucune espérance. Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, nous serions encore, vous et moi, dans les ténèbres, dans nos ténèbres, et nous marcherions dans nos ténèbres. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. Nous serions encore esclaves du péché. 1 Corinthiens 15, verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, nous serions encore sous la condamnation de notre péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul dans Romains 8, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, le diable n'aurait pas été vaincu. Jean 12, verset 31, « Maintenant, dit Jésus, c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Notons que la victoire du Christ sur le diable, si elle a été acquise à la croix et par la résurrection, attend encore le retour de Jésus pour sa complète réalisation. Et quand Jésus reviendra, le diable et tous les siens, nous dit l'Apocalypse, seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, une image de la perdition éternelle et de ses souffrances. Je lis Apocalypse 20, verset 10, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, nous n'aurions aucune espérance. Notre seul horizon serait la mort. La mort, point final. Romains 3, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Quelle désespérance. Si Jésus n'était pas mort, donc n'était pas né, pardon, donc ni mort ni ressuscité, nous ne connaîtrions pas Dieu, notre Créateur, comme notre Père. C'est Jésus qui nous l'a révélé dans cette intimité. Et une parole post-résurrection le dit bien dans Jean 20, verset 17, Jésus qui parle à Marie près du tombeau, « Ne me touche pas, lui dit-il. » Car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, nous ne saurions pas ce que Emmanuel, Dieu avec nous, veut dire. Voici, je suis avec vous, dit Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus n'était pas né, donc ni mort ni ressuscité, nous serions, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 19, les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux de tous les hommes. Quel désespoir! Voilà ce que nous serions si Jésus n'était pas venu. Bien sûr, tout ce que nous venons de dire n'est qu'hypothèse en réponse à notre question. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Et c'est notre cinquième et dernier point. Il est venu. Et c'est pourquoi nous sommes les plus heureux. Je ne sais pas si vous le croyez vraiment, mais nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Et nous pouvons l'être si ce n'est pas encore le cas. Les plus heureux parce qu'en Jésus et par Jésus, la lumière brille dans notre cœur et dans les ténèbres de notre monde. Alors oui, elle ne brille jamais assez, c'est vrai. Mais il appartient à chacun de nous de briller un peu plus et un peu mieux là où le Seigneur nous... Nous sommes les plus heureux parce qu'en Jésus, par Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation de notre péché. C'est merveilleux, non ? C'est merveilleux. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Les plus heureux parce qu'en Jésus, par Jésus, Dieu est notre Père. Et il est avec nous tous les jours par son Esprit et par son Fils. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Les plus heureux parce qu'en Jésus, par Jésus, le diable a été vaincu. Et un jour, il ne pourra plus nuire. Un jour, quand les premières choses auront disparu, alors Dieu habitera parmi son peuple. Il sera lui-même avec eux, dit l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les plus heureux parce qu'en Jésus, par Jésus, si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Jésus est venu. Et nous pouvons être les plus heureux des hommes parce que en lui et par lui, nous avons une espérance vivante qui va jusque dans l'éternité. Oh, quel bonheur de le connaître. Quel bonheur de marcher dans la lumière. Quel bonheur d'être pardonné de ses péchés. Quel bonheur de ne plus être sous la condamnation. Quel bonheur d'être au bénéfice de la victoire du Christ. Quel bonheur d'avoir une espérance. Quel bonheur d'avoir Dieu pour Père. Quel bonheur d'être au bénéfice de sa présence jour après jour. Quel bonheur d'être les plus heureux des hommes et des femmes. Oui, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen.